D'ailleurs, avec Orange Monnaie, pour accéder à des services financiers simples et sécurisés.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui vous donne des clés pour mieux comprendre l'économie. Et ça tombe bien, nous avons aujourd'hui deux excellents vulgarisateurs, deux économistes que je vous présente dans un instant et qui vont nous expliquer ce qui se passe en ce moment dans les étalages de nos magasins, dans les stations-service, partout où les prix des produits de première nécessité, comme les plus superflus d'ailleurs, grimpent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Je traduis inflation, phénomène économique qui se traduit par une dépréciation de la monnaie combinée à une hausse générale des prix. Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont au plus haut depuis 10 ans. C'est le dernier chiffre de la FAO. Ce phénomène, il est mondial, alimenté par plusieurs facteurs que nous détaillerons, et il a des conséquences très concrètes dans nos vies et dans celles des entreprises qui doivent trouver le bon équilibre pour conserver leurs clients en évitant d'être trop pénalisés. Nous serons au Brésil, au Kenya et en France avec ce boulanger parisien.
Alors nous, on a subi une hausse brutale de tous les prix, que ce soit le carburant pour les livraisons, que ce soit l'électricité. Nous, ici, on est en tout électrique. Je ne sais pas comment nous, les mois ou les années à venir, on va pouvoir faire accepter aux gens que notre prix du pain augmente parce que l'énergie, elle augmente.
Cette inflation plus forte, plus tenace que prévu, va-t-elle durer? Avec quelles conséquences sur l'ensemble des économies? Comment y faire face? Que peuvent faire les gouvernements, les banques centrales? Ce phénomène n'est-il pas finalement incontournable, voire nécessaire? Autant de questions pour nos deux invités. Et tout cela dans un contexte économique toujours aussi mouvant, alors que les marchés financiers retrouvent leur plus belle couleur, le CAC 40 à plus de 7000 points, alors que les dirigeants rivalisent de promesses, y compris financières, pour sauver le climat, et alors que de nouveaux foyers de Covid-19, notamment en Europe, ravivent les inquiétudes, nouveaux nuages sur l'économie mondiale. Bienvenue, ça va commencer, juste le temps de vous parler d'RFI Echo, nos comptes Twitter et Facebook, pour suivre au quotidien l'actualité économique avec les journalistes de votre radio. Les voilà donc nos invités. À mes côtés, Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'économie à l'ESCP Business School. C'est la doyenne mondiale des écoles de commerce, c'est ça?
Absolument. On a fêté en 2019 son bicentenaire.
Vous êtes aussi et récemment l'auteur aux éditions Talendier d'une histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, un ouvrage dont nous allons pouvoir parler ici. Nous sommes aussi en ligne avec Véronique Riche-Flores. Bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs vous connaissent bien aussi, comme Jean-Marc Daniel, économiste indépendante à la tête de Riche-Flores Research, où vous publiez de nombreuses analyses sur l'économie mondiale. En juin dernier, vous étiez l'invité d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs pour parler à l'époque de la menace inflationniste. On se demandait s'il s'agissait d'un phénomène de spéculation lié notamment au prix des matières premières ou alors d'un phénomène de fond. Est-ce qu'on a la réponse aujourd'hui, Véronique Riche-Flores?
On n'est pas beaucoup plus avancé. Il y a à l'évidence des phénomènes spéculatifs, assez indéniables, me semble-t-il, sur les marchés des matières premières. Et en même temps, de bonnes raisons, quelque part, d'envisager que les prix à long terme d'un certain nombre de matières premières soient tirés à la hausse, tout simplement parce qu'on est face à des questions de sous-investissement, de raréfaction de la ressource, et en face de ça, une croissance, une perspective de croissance des besoins toujours très importante et peut-être stimulée par des programmes de relance, notamment relance sous-pétérielle. Donc, vous voyez que le problème ne s'est pas simplifié, il s'est plutôt complexifié. J'ai oublié de signaler les problématiques climatiques qui ont un effet direct sur les prix alimentaires en particulier.
Jean-Marc Daniel, phénomène de fond ou alors spéculation, est-ce que ça va continuer à ce rythme 5, 6, 7% dans les pays développés et même une inflation à deux chiffres dans d'autres pays?
Non, je ne pense pas. Alors effectivement, il y a un débat. Hein. Certains annoncent qu'on va vers 10% d'inflation. D'autres disent que, et c'est plutôt la position d'ailleurs des banques centrales, de dire que c'est plutôt une remise à niveau des prix. C'est-à-dire dans la définition que vous avez donnée de l'inflation, il y a l'idée d'une hausse générale, donc il faut que tous les prix augmentent, ce qui n'est pas exactement le cas en ce moment, et durable, c'est-à-dire qu'il y ait un enchaînement où chaque fois qu'un prix augmente, les prix voisins se mettent à augmenter, ce qui incite les gens qui ont initié la hausse des prix à renouveler leur hausse des prix, et donc il y a cette espèce d'effet cumulatif. Je rappelle que dans les années 70, par exemple, les salaires augmentaient tous les trimestres parce qu'on courait à payer les prix qui eux-mêmes augmentaient très très vite. Donc je ne pense pas qu'on soit là. Pour rebondir sur ce que vient de dire Véronique, je crois qu'il y a trois éléments qui vont jouer. Effectivement, dans le prix des matières premières, il y a eu les matières premières plus l'engorgement des ports. Or, l'engorgement des ports, on commence à voir... heureusement, la fin du problème, hein, notamment dans les ports américains, les dockers ont travaillé jour et nuit et on commence
à l'échelle mondiale, c'est peut-être plus compliqué.
Oui. Et les matières premières, encore une fois, elles ont beaucoup augmenté à un moment donné du fait de la base de référence. Au printemps 2020, les prix étaient tombés très très bas, notamment le prix du pétrole, puisque l'économie mondiale était à l'arrêt et donc la demande avait disparu. Donc les gens qui avaient des stocks et essayaient d'écouler les stocks à des prix qui étaient des prix cassés. Donc là, il y a une remise à niveau. Je suis pas sûr.
Et une grande volatilité. La volatilité joue beaucoup sur l'inflation.
Et cette volatilité, après, elle est plus ou moins lissée dans le temps. C'est-à-dire, les gens font des stocks, ils écoulent leurs stocks à des prix qui sont plus stabilisés par rapport aux prix qui ont été pratiqués vis-à-vis d'eux. On le voit d'ailleurs sur le zinc, sur l'aluminium, les prix ont commencé à baisser. Sur le jus d'orange, les prix ont commencé à baisser. Donc, engorgement des ports, solution en vue. Prix des matières premières, probablement fin de cet aspect un peu spéculatif. Le deuxième enjeu, c'est est-ce que les salaires vont suivre? Et donc, là aussi, on a été frappé de constater qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans certains pays développés. Néanmoins, aux États-Unis en particulier, mais aussi en Europe, les salaires ne suivent pas pour autant. C'est-à-dire que les hausses de salaires ne sont pas au rendez-vous. Et le dernier élément, c'est le maintien d'une demande publique élevée, c'est-à-dire ces déficits budgétaires qui ont été considérables. Est-ce que le quoi qu'il en coûte va continuer au niveau mondial et est-ce qu'on va continuer à déverser des moyens de paiement dans l'économie avec en face une production qui ne peut pas suivre.
N'allons pas trop loin sur l'action des dirigeants. Le constat d'abord, hein, il est là pour les populations. On va aller d'abord au Kenya, ce pays d'Afrique de l'Est où le coût de la vie n'a fait qu'augmenter ces derniers mois, ce qui provoque la grogne de nombreux habitants. C'est un reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroa.
Tout augmente, c'est déjà cher aujourd'hui, mais demain ce sera encore plus cher.
Anastasia Nzilani Mbouvi tient Kibanda, ses petits restaurants bon marché sur le bord de la route. Elle est installée à Nairobi depuis plus de 20 ans et se désespère aujourd'hui de cette inflation grandissante.
Le prix de la farine de maïs est élevé, le paquet de 2 kilos coûte maintenant près d'un euro. Avant, c'était moins de 80 centimes. Pour les choux, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas se permettre d'augmenter les prix. Les gens n'ont de toute façon pas d'argent. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on sert des plus petites portions de nourriture avec les mêmes prix. Mais ce n'est pas évident, la vie est difficile.
La restauratrice dit aussi attendre avec impatience de nouvelles pluies, car cette flambée des prix des produits alimentaires est en partie due à la sécheresse qui sévit dans plusieurs régions du Kenya. Quelques rues plus loin, à la caisse de ce supermarché de Nairobi, les consommateurs aussi sont inquiets par les nouveaux prix affichés dans les rayons. Tous ont remarqué une hausse des tarifs des denrées de base.
Mon plein de courses que j'ai fait là aujourd'hui, il était moins cher il y a un mois. Aujourd'hui, les prix sont plus élevés, notamment la farine ou l'huile de cuisson.
Le montant que je dépensais il y a un an ne suffit plus aujourd'hui pour les mêmes dépenses. Mais mon salaire, lui, n'a pas augmenté. Alors je me retrouve à devoir trouver d'autres moyens pour augmenter mon budget mensuel. Je ne peux plus mettre d'argent de côté en ce moment, par exemple, car c'est ce que je coupe en premier.
Avec ces prix gonflés, mais sans que les salaires ne soient revus à la hausse, beaucoup de Kenyans ont vu une baisse de leur pouvoir d'achat ces derniers mois. D'autant qu'à la maison aussi, les factures ont augmenté. Les chiffres du Bureau des statistiques kényan sont frappants. Hausse de 25% pour le prix du gaz en un an, de 10% pour l'électricité. Du côté du patronat, le discours se veut pourtant optimiste. James Mureux est chef d'une entreprise dans le domaine agricole et un représentant de KEPSA, le syndicat des patrons kényans.
La pandémie de Covid-19 a touché même les meilleurs. Et bien sûr, comme tout le monde, nous, les Kényans, on en a souffert. L'inflation a été causée en partie par un manque de ressources, car les gens ne produisaient plus autant qu'avant. Cette inflation a rendu le coût de la vie plus cher. Les prix des denrées de base ont augmenté. Mais on va s'en sortir, on va renaître de nos cendres. Les Kenyans sont très résilients, ils rebondissent vite.
La baisse du prix des carburants à la pompe a déjà permis de freiner la hausse du coût de la vie, apportant un faible espoir pour une amélioration du pouvoir d'achat des Kenyans. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Eh bien oui, le pouvoir d'achat, Véronique Riche-Flores, on a commencé à en parler avec Jean-Marc Daniel. C'est mécanique, hein, inflation, pas de hausse des salaires, moins d'argent pour vivre et pour investir peut-être.
Oui, comme vous le dites, c'est assez mécanique effectivement. On parle qui plus est de prix de biens ou de denrées qui représentent une bonne part effectivement des dépenses des ménages, en particulier dans les mondes sous-développés. Et donc l'impact est immédiat, ce qui contraint à la consommation, la dépense. Et c'est assez intéressant, effectivement, dans votre reportage, cette référence à la réduction des portions, hein, des portions alimentaires. Si on ne peut pas augmenter les prix, on réduit les portions. C'est un petit peu comme dans l'immobilier américain, d'ailleurs, on réduit les mètres carrés au même prix. Donc, ça, tout ceci a un coût, effectivement, et particulièrement pour les pays les plus pauvres.
Jean-Marc Daniel, sur ce point.
Oui, sur ce point, ce qui est intéressant, c'est, je dirais d'abord le fait que tous les pays sont pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire, on a parlé du Kenya, mais le voisin soudanais est dans une situation en termes d'inflation qui est totalement catastrophique. En fait, la Banque mondiale, Véronique a parlé de pays sous-développés, la Banque mondiale identifie véritablement un bloc de pays qu'elle appelle les pays FCV, c'est-à-dire les pays en situation de fragilité, de conflit et de violence. Et quand on regarde, ce sont ces pays qui sont en train de voir leur inflation exploser. Donc, je parlais du Soudan, il y a le Venezuela, le Liban, hélas, est en train de rejoindre ce groupe de pays. Et donc là, on est dans une situation, c'est même plus le pouvoir d'achat qui est en jeu, c'est véritablement l'utilisation de l'outil monétaire. C'est-à-dire, on va vers de la dollarisation, vers du troc, vers une disparition de toute une partie de l'économie monétaire, ce qui rend effectivement l'hypothèse même d'une croissance totalement inenvisageable. Ensuite, vous avez des pays intermédiaires, je pense à des pays comme la Turquie, où il y a de l'inflation, il y a des combats au sein de l'appareil dirigeant pour savoir si on accepte cette inflation, ou si on essaie de lutter. Comment on va lutter contre l'inflation. Et là, ce qu'on voit, donc c'est un peu le cas du Kenya, ce qu'on voit, c'est que les produits de première nécessité sont devenus de plus en plus recherchés. Grosso modo, comme les gens n'ont plus les moyens d'acheter de la viande, ils achètent du riz. Et donc, le prix du riz augmente, ça ampute leur pouvoir d'achat. Conséquence, ils peuvent plus acheter de la viande, donc ils se remettent à acheter davantage de riz parce qu'ils essaient quand même de se nourrir. Et donc, la pression sur le prix du riz est amplifiée par ça. Alors, les économistes appellent ça un effet Giffen. Et on commence à voir ça sur le blé, sur le riz, y compris dans les pays occidentaux. C'est-à-dire les supermarchés qui ont annoncé qu'ils allaient augmenter le prix des pâtes alimentaires sont surpris de voir que la conséquence n'est pas une baisse de la consommation, c'est plutôt une augmentation. Alors les gens stockent et puis surtout les gens se disent finalement si je veux préserver mon pouvoir d'achat, il faut que...
Mais ils achètent moins de voitures ou de choses chères.
Et ils se rabattent sur les prix, ces biens de première nécessité dont le prix augmente. Et puis alors le dernier élément, c'est incontestablement, et ça c'est un problème à moyen et long terme, c'est le prix de l'énergie. Je rappelle quand même que on prend comme engagement de ne plus utiliser le charbon, ce qui est tout à fait nécessaire vis-à-vis de la situation du réchauffement climatique, mais la consommation de charbon a augmenté de 60% depuis le début du siècle, et il y a des pays où c'est la source quasi exclusive d'énergie pour produire de l'électricité et pour produire du chauffage. Donc là, le prix de l'énergie, lui, compte tenu des exigences climatiques, va être durablement orienté à la hausse.
Des énergies fossiles, effectivement, Véronique Riche-Flores, seul remède possible dans l'urgence, comme en Inde, par exemple, très récemment, baisser les taxes sur le carburant.
Alors, seul remède, peut-être, oui, à court terme, en tout cas, une des réponses possibles. Après, le vrai remède structurel, il se trouvera dans l'investissement. Et je crois qu'il faut rappeler à cet égard qu'on a traversé une longue période de sous-investissement chronique au niveau notamment des pays développés qui ont pris, dans le cas de l'Europe, par exemple, énormément de retard sur le développement de leurs ressources énergétiques en particulier. Et donc oui, il y a des palliatifs à court terme qui peuvent passer par des baisses de taxes, mais il y a surtout des politiques structurelles et puis des questionnements. Quand les économistes se sont réjouis en début d'année, et comment ne pas l'être, à l'occasion des programmes de relance dits schumpeteriens, hein, c'est-à-dire relance verte, qui promet de détruire le parc d'un certain nombre de biens très pollués un fort contenant en carbone par des biens plus verts. Donc ça offre des perspectives industrielles effectivement très favorables. On a oublié dans cette équation le coût en matières premières que représentait cette transition environnementale. Et donc là, je pense qu'effectivement, on est face à des choix qui sont pas faciles. Hein. L'environnement est extrêmement complexe, mais on n'est pas à l'abri d'erreurs. Et je crois que dans la flambée, l'aspect spéculatif des hausses de prix de matières premières, surtout de la première moitié de l'année, on avait beaucoup de réactions à ces programmes de relance et en particulier la partie verte de ces programmes de relance. Donc, vous voyez que le problème est quand même très complexe, même si, alors ce qui est plutôt rassurant et qui valide bien l'idée qu'il y a beaucoup de spéculation dans ces hausses de prix, c'est que finalement, l'aspect demande rejoue à certains moments. Jean-Marc Daniel signalait effectivement les comportements, le changement de comportement de consommation. Hein. On achète moins de viande, moins de voitures et plus de riz. Et globalement, quand vous regardez l'évolution, par exemple, du prix du bois de charpente, début d'année aux États-Unis, ça a fait la une de beaucoup de journaux parce qu'effectivement, je crois qu'ils ont pris 400%, etc. Bon, le phénomène a duré 4 mois ou 5 mois. Et puis, depuis, on a retrouvé des prix antérieurs à cette flambée. On a un peu le même type de phénomène sur le minerai de fer. En particulier en Chine, et qui commence à toucher maintenant la tôle. Donc, finalement, l'ajustement de la demande a un effet sur les prix qui finissent par se réguler ou par se normaliser. C'est ce qui est un petit peu rassurant quand même à brève échéance.
Restons encore un instant dans le domaine de l'énergie, Jean-Marc Daniel. Autre solution évoquée par Joe Biden, le président américain, il appelle les pays producteurs d'énergie à ouvrir les vannes.
Oui, vous avez trois façons d'appréhender le problème. Considérez qu'on est dans une phase transitoire, on ne peut pas passer directement au renouvelable tout de suite, et donc il faut accepter effectivement de continuer à exploiter des mines de charbon, de continuer à produire du pétrole, essayer de s'orienter plutôt vers le gaz qui est moins polluant. Mmh. Mais il y a une phase de transition, et que c'est ce que disent des gens comme William Nordhaus, qui a eu le prix Nobel d'économie pour des problèmes environnementaux. Il dit, si on veut atteindre zéro pollution et tout ça, on va revenir à la préhistoire. Donc il y a un moment où la population trouvera que le message est totalement inacceptable et on n'arrivera à rien.
Trop de pénurie pénaliserait le consommateur.
Le consommateur, et on n'arrivera à rien, ce sera contre-productif. C'est-à-dire il y aura une sorte de révolte contre le discours sur le réchauffement climatique et à partir de ce moment-là, on passera à côté de l'objectif. La deuxième approche, c'est des éléments de régression dans le style de vie. Moi, j'avais été frappé l'hiver dernier par ce qu'on appelait la polémique de l'aspirateur en Suède. C'est-à-dire que en Suède, pénurie d'électricité, manque d'électricité, importation d'électricité de Pologne, et un certain nombre de gens disent, mais on peut pas se permettre de continuer à acheter l'électricité en Pologne parce que c'est du charbon qui est derrière. Et donc, il faut réduire notre consommation d'électricité, et le bon moyen, c'est d'arrêter de passer l'aspirateur et de passer le balai. Et donc, on a une sorte de changement de vie, mais avec un côté un peu régressif. L'aspirateur, malgré tout, c'est un progrès par rapport au balai. Et ça suppose, donc on en revient là, c'est une forme de perte du pouvoir d'achat. Et donc, ça suppose qu'on accepte, que ce soit sous forme d'inflation, sous forme de modification des conditions de vie, sous forme de perte d'une partie du confort, on accepte un recul du pouvoir d'achat. Et là, ça suppose quand même un effort de pédagogie énorme quand on voit ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Et il n'y a pas qu'en France. Et donc, il y a un effort de pédagogie. Là aussi, je suis pas sûr que ça demande pas plus de temps que l'immédiateté dans laquelle nous sommes. Et puis, le troisième élément, ce serait effectivement d'investir massivement. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est aux États de le faire ou est-ce que c'est pas plutôt au secteur privé de... Il vient de sortir une note de la direction du Trésor en France qui explique que tous les gains qui ont été réalisés en termes d'objectifs de carbone depuis 15 ans en France l'ont été essentiellement par l'industrie grâce à de l'investissement et à de l'innovation. Et donc, il faut porter cet investissement, cette innovation, et faire confiance pour le faire au secteur privé.
On a parlé d'inflation à deux chiffres tout à l'heure. C'est le cas au Brésil, 10,25% sur cette année. C'était les chiffres du mois de septembre. La monnaie, le real, se dévalorise de mois en mois. Et là encore, les consommateurs sont les premières victimes de cette inflation. Mais ils tentent, à leur manière, de résister. C'est un reportage à Rio de Sarah Cozzolino.
Au volant de sa voiture, Ron vient de recevoir un appel d'un ami. Entre chauffeur Uber, il se donne les bons plans pour faire le plein de carburant à moindre frais.
Oui, parce que ça augmente dans toutes les stations-service. Donc on part à la chasse. On va là où c'est le moins cher. Mais malheureusement, on est en train de payer pour travailler. On n'a pas le choix, il faut travailler.
Il regrette que le prix de la course n'a pas été augmenté malgré l'inflation. C'est aussi le cas pour Karina Rodriguez, dont le salaire n'a pas bougé alors que ses dépenses ont quasiment doublé.
Des produits de base comme le riz ou les haricots sont à des prix absurdes. Pour 2 kilos, on paie quasiment 20 reais, alors qu'avant, 2 kilos, c'était 8 reais.
Alors les Brésiliens n'ont pas d'autre choix que d'adapter leur consommation. Edinaldo de Souza a arrêté de manger de la viande rouge et il achète toujours en fonction des promotions.
Carne vermelha, você não pode comer.
La viande rouge, on ne peut plus en manger. On peut choisir entre le poulet et le poisson, mais il faut scruter les fins de marché. Parce que sinon, au début, tout est cher. La viande, même les œufs sont chers.
Les prix du gaz, de l'eau et de l'électricité ont eux aussi augmenté cette année et de plus en plus de Brésiliens sont obligés de vivre à crédit. Une situation compliquée à un an de l'élection présidentielle. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
La débrouille, c'est le cas au Brésil comme tout à l'heure au Kenya, Véronique Riche-Flores. Cette inflation, qui pénalise-t-elle le plus ? Les moins fortunés, ceux qu'on vient d'entendre, ou alors ceux qui vivent de leur rente qui du coup perdent leur valeur ?
Écoutez, je crois que la réponse à votre question est assez claire. Ce sont clairement les moins fortunés. Quand vous regardez ne serait-ce que l'évolution, par exemple, du Bovespa, l'indice boursier brésilien, il s'en est quand même beaucoup mieux sorti, en dépit de très fortes hausses des taux d'intérêt, hein, que l'évolution du pouvoir d'achat des Brésiliens. Donc, effectivement, à ce stade, pour l'instant, le coût est clairement très mal réparti. Les choses pourraient changer. Et c'est toute l'ambiguïté ou la difficulté des choix de politique monétaire actuels. C'est-à-dire que la réaction des banques centrales face à cette flambée de l'inflation pourrait changer. Alors, le cas du Brésil n'est pas forcément le meilleur des cas, parce que c'est en l'occurrence l'un des pays qui a le plus augmenté ses taux d'intérêt récemment. Mais effectivement, à un moment donné, si les banques centrales sont contraintes de relever significativement le loyer de l'argent à l'échelle mondiale, eh bien, les risques financiers sont considérables, seraient considérables. Et là, sans doute que le coût pourrait effectivement être réparti différemment et impacter beaucoup plus les gens fortunés, les épargnants.
On va revenir sur l'attitude des banques centrales. Jean-Marc Daniel, sur ce point, qui subit le plus ?
Alors, ça dépend d'un pays à l'autre et d'une. Alors, historiquement, par exemple, en Europe, la grande période d'inflation des années 50-60 avait surtout paupérisé la partie la plus âgée de la population. C'est-à-dire, les retraites avaient eu du mal à suivre. Et beaucoup de gens, effectivement, le pauvre des années 70, c'est un retraité qui a subi 20 ans d'inflation. Là, en ce moment, on voit bien que dans les pays qui sont très marqués par l'inflation, donc, le Brésil, c'est quand même, hélas, une tradition au Brésil. L'inflation, c'est un de ces pays qui a été assez souvent marqué par des phases d'hyperinflation. C'est la partie la plus pauvre de la population qui en subit les conséquences. Et au sein de la partie la plus pauvre, c'est la partie urbanisée. Le monde rural, en général, qui est assez souvent, hélas, en retard par rapport à la croissance générale de l'économie, se débrouille mieux dans les périodes d'inflation parce qu'il est à la source même de la production. Il arrive à s'auto-organiser et à s'auto-alimenter. Et donc, le monde rural est moins touché que le prolétariat des villes.
C'est le cas aussi en Afrique ?
Alors, c'est assez souvent le cas aussi en Afrique, sachant qu'une partie de la paysannerie africaine a été très réorientée vers des cultures de pré-industrie. Je pense à tous les pays qui sont sur le cacao, sur le café. Le Kenya, dont on parlait, est très sur les légumes, le thé. C'est devenu le producteur qui fait l'ajustement sur le thé. Et donc ces pays, la paysannerie, elle est là beaucoup dépendante des marchés mondiaux, plus que dans les pays comme l'Amérique latine.
Faut-il s'inquiéter de l'inflation ? On continue d'en parler dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, avec nos invités, les économistes Jean-Marc Daniel et Véronique Riche-Flores. Comme promis, on va parler du rôle des institutions financières, en particulier des banques centrales. On va écouter d'abord le patron de la Fed aux États-Unis, Jérôme Powell. Cette semaine, s'est voulu à moitié rassurant. Supply chain bottlenecks will abate.
Le goulet d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement va finir par se résorber et le marché de l'emploi va repartir à la hausse. Dès que cela se produira, l'inflation va baisser par rapport à son niveau élevé d'aujourd'hui. Nous allons certainement la voir refluer au deuxième ou troisième trimestre prochain. Ce que je veux vous dire, c'est que nous surveillons avec prudence si l'économie évolue en ligne avec nos attentes et nous adapterons notre politique de façon appropriée.
Véronique Rich-Flores, la Banque centrale américaine, plutôt confiante, mais qui reste sur ses gardes.
Oui, qui forcément reste sur ses gardes parce que l'inflation américaine, il faut le rappeler, a franchi le cap des 5% ces derniers mois. Donc, c'est clairement un niveau très élevé. Même quand on retraite des prix de l'énergie ou alimentaire, on est toujours au-dessus de 4%. Donc, forcément, pour une banque centrale qui avait un objectif, et qui a toujours d'ailleurs, un objectif autour de 2%, elle est obligée de prendre en considération ces dérapages. Néanmoins, le diagnostic était probablement, en tout cas c'est celui qui est consensuel auprès des économistes sur l'idée qu'on va avoir un reflux de l'inflation, comme on l'a dit, il y a des phénomènes spéculatifs qui vont sans doute s'inverser dans les prochains mois, des effets statistiques de base, parce qu'on compare l'inflation, on mesure l'inflation sur une année, hein. Donc aujourd'hui, les chiffres publiés sont le calcul par rapport au niveau des prix au moment de la crise de 2020. Donc il y a effectivement des effets statistiques qui poussent l'inflation à la hausse, plus les difficultés d'approvisionnement. La grande difficulté néanmoins, c'est qu'on a beaucoup de mal à anticiper le temps nécessaire pour un retour à la normale. Dans les problèmes d'approvisionnement, donc on a beaucoup parlé par exemple des puces électroniques. On sait que le marché mondial dépend beaucoup de Taïwan, pas que, mais quand même beaucoup, et que Taïwan ne pouvait plus produire ou moins produire du fait du réchauffement de température et des problèmes climatiques. Combien de temps ces problèmes d'approvisionnement vont-ils durer? On commence à voir un peu le bout du tunnel en matière de puces électroniques, mais la demande s'est considérablement accrue ces derniers temps également. Donc il y a beaucoup d'éléments comme cela au niveau de la saturation des transports et de la logistique internationale, des éléments assez incertains sur la durée du phénomène. Et qui font qu'effectivement les banques centrales, comme toute économiste je crois aujourd'hui, sont très prudentes quant à l'interprétation de ces derniers chiffres. Alors.
Jean-Marc Daniel, sur ce point, la secrétaire au Trésor américaine a dit pas de surchauffe de l'économie américaine. Dans le même temps, la banque centrale annonce qu'elle va réduire son soutien à l'économie. On est un peu à la croisée des chemins, là.
Oui, on est à la croisée des chemins. Et je pense d'abord le fait qu'aux États-Unis, une des parties de ce qui débouche dans notre pays sur l'inflation se traduit par du déficit extérieur. C'est-à-dire que quand vous distribuez trop de revenus, quand vous avez un pouvoir d'achat qui est excessif par rapport à la quantité produite dans le pays, normalement, dans une économie qui est une économie plus ou moins fermée, ça se traduit immédiatement par de l'inflation. Les gens en profitent pour augmenter leur prix. Là, aux États-Unis, cette différence entre l'offre et la demande et cette augmentation assez fort de la demande se traduit par une augmentation du déficit extérieur et des importations. On a eu le dernier chiffre du déficit extérieur américain. Il est encore plus violent et plus fort donc pour le dernier mois qu'on a sous revue, qui est le mois de septembre, je crois, et plus fort que prévu. Et les anticipations pour octobre sont aussi également très mauvaises. On va vers un déficit extérieur américain qui était de 400 milliards de dollars en 2019 à 820 milliards de dollars cette année. Et donc la réserve fédérale, elle dit il y a quand même, indépendamment de l'inflation, il y a quand même un problème de surchauffe, entre guillemets, c'est-à-dire d'excès de demande distribuée. Le pays ne peut pas continuer durablement à vivre comme ça au-dessus de ses moyens. Le deuxième enjeu, je pense que toutes les banques centrales, Véronique l'a dit, toutes les banques centrales ont un discours en ce moment qui est un discours relativement apaisant et apaisé. Sur le thème, c'est temporaire. Pourquoi ? Parce que leur enjeu, c'est que si véritablement l'inflation s'installe et si l'opinion publique est convaincue que l'inflation est là, on attend d'elle qu'elle remonte les taux d'intérêt. Et augmenter les taux d'intérêt, vu l'état d'endettement global de la planète, ça suppose un fine-tuning, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de le faire avec beaucoup de doigté.
C'est pour ça que la Banque d'Angleterre a préféré le statu quo, là.
Oui, la Banque d'Angleterre a préféré le statu quo, avec des débats en son sein qui, donc le Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a bien indiqué que l'enjeu, c'était d'éviter que les États ne soient soit pris à la gorge. Et donc, la seule solution dans ces cas-là, c'est que si on remonte les taux d'intérêt, il faut quand même garantir aux États qu'on continuera à racheter leur dette publique de façon à éviter toute menace ou même toute idée qu'ils puissent être en situation de banqueroute. La Grèce est le traumatisme des dernières années et donc la Banque centrale est là pour faire en sorte qu'on n'ait plus de situation à la grecque. Et puis, le dernier enjeu, je pense, derrière tout ça, c'est que il y a des pays qui commencent à dire mais la vraie tendance historique sur le moyen long terme, indépendamment de l'énergie, c'est quand même la déflation. Quand vous regardez les dernières élections qui ont eu lieu au Japon, dans le débat électoral, c'était pas l'inflation qui était en jeu, c'était plutôt la nécessité de faire de la relance parce que l'économie continuait à être menacée par la déflation. Et donc, la Banque du Japon est en train de nous expliquer qu'il faut arrêter de parler d'inflation et qu'il faut revenir à cette idée que le vrai problème durable de l'économie des pays occidentaux, c'est la déflation.
Véronique Rich-Flores, les banques centrales font de la politique, voire de la géopolitique.
Oui, je crois de plus en plus. On l'a vu déjà ces dernières années dans leur politique dite quantitative, c'est-à-dire ces pratiques de rachat d'actifs, en particulier des bons du Trésor. Il y a une sorte de compétition qui s'est installée. C'est assez marrant de voir que finalement, le degré d'intervention des banques centrales en masse a convergé ces dernières années vers des niveaux très semblables, y compris quand on intègre la Banque de Chine à cet ensemble. Donc il y a une stratégie, la compétitivité et une influence politique. Alors, qui est exacerbé en ce moment quand on connaît les problèmes qui ont été soulevés récemment au sein de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine, avec des pratiques en termes d'intervention, enfin de gestion des patrimoines des membres de la Fed qui posent question indiscutablement. Et il y a peut-être également effectivement donc des banques centrales qui peuvent être influencées par leur situation personnelle ou des intérêts voilà qu'on souhaiterait voir totalement exclus compte tenu de l'importance de leur fonction pour l'équilibre global. Il n'en reste pas moins que la situation, et ça c'est ce que disait très bien Jean-Marc Daniel, est extrêmement critique. On a accumulé tellement de dettes ces dernières années à tous les étages, si je peux dire, et particulièrement au niveau des entreprises et des États, qu'aujourd'hui, remonter les taux d'intérêt est extrêmement pourrait se révéler extrêmement grave. C'est bien la raison, me semble-t-il, pour laquelle la priorité du message des banques centrales des 8 derniers jours, ça a été surtout de casser les anticipations de hausse de leur taux d'intérêt qui s'étaient développées sur les marchés à terme ces dernières semaines. Et c'est de ce fait-là qu'elles sont apparues très très accommodantes en réalité parce qu'elles prenaient le contre-pied de tendances sur les marchés qui les mettaient dans l'inconfort et qui soulevaient un risque majeur, me semble-t-il, à terme pour les marchés financiers.
Eh bien, on va les entendre, ces entreprises confrontées, elles aussi, à l'inflation, augmenter leurs tarifs, c'est le risque de perdre des parts de marché. On va prendre deux exemples en France, l'alimentation et le bâtiment. Louis Augry, du service économie de RFI, vous nous avez rejoint, vous avez rencontré deux patrons dans l'expectative.
Tout à fait. D'abord, Saad Zerzour, qui est boulanger dans le 15e arrondissement de Paris. Pour le moment, les factures qu'il doit payer à la fin du mois explosent, mais il n'a pas encore fait monter ses prix.
J'ai fait le choix de ne pas augmenter le prix de mon pain, parce que c'est compliqué. Je connais des gens qui achètent des paquets de cigarettes tous les jours, pour qui ça pose aucun problème. La hausse successive du prix du tabac. Mais par contre, sur la baguette, tout de suite, voilà, faut pas y toucher.
Mais le boulanger le reconnaît, il ne pourra pas continuer comme ça bien longtemps.
On sera rattrapé par la réalité, on sera obligé de réajuster nos prix. Alors peut-être qu'on fera pas les mêmes hausses que certains de nos confrères ont fait, parce que j'ai vu des voisins qui ont été jusqu'à 10 centimes de hausse. On va peut-être faire une hausse de 5 centimes et puis on va voir comment on va pouvoir travailler dans ces conditions-là.
Alors cette hausse, elle concerne la plupart des secteurs d'activité. Thierry Jossé-Parmant est couvreur zingueur et président du syndicat des artisans du bâtiment à Paris. Et lui, il subit de plein fouet l'explosion des prix des matières premières et également celui du carburant.
Par rapport à mon activité, moi c'est 200 euros de plus par mois. Vous multipliez ça par 12, ça fait comme 2400 euros. C'est toujours pareil, c'est de la marge en moins.
Et forcément, les entreprises du bâtiment sont obligées d'adapter leurs tarifs pour s'y retrouver financièrement.
Les devis signés, effectivement, on n'a pas le choix, donc on rogne sur notre marge. Sur les futurs chantiers, on peut s'arranger justement à augmenter. Mais le problème, c'est qu'après, il faut réussir à faire passer le devis auprès du client. S'ils avaient prévu 10 000 euros et c'est 12 000, il y a 2 000 en plus, donc il faut les trouver.
Alors face à cette hausse des prix, Thierry Josset-Parment, comme Saad Zerzour, ne s'attendent pas à un retour à la normale avant la fin d'année prochaine.
Merci Louis Augry. Jean-Marc Daniel, c'est la quadrature du cercle pour les entreprises, effectivement la question des marges.
Oui, absolument, parce que les entreprises subissent la hausse du prix des matières premières, du prix de leurs entrants, et en revanche, dans une société qui est concurrentielle par rapport aux années 60-70 dont je parlais, à l'époque on parlait de capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire l'État jouait un très grand rôle et beaucoup d'activités étaient en monopole. Là, beaucoup de gens sont en concurrence, on l'a entendu avec le boulanger qui dit bien, mes collègues autour de moi se permettent d'augmenter les prix, mais les gens, ils reculent pas devant l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, mais en revanche, ils sont prêts à reculer devant l'augmentation du prix du pain. On rejoint d'ailleurs un peu ce que je disais sur le riz, les effets Giffen et tout ça. Ce qu'on voit bien, c'est que les gens, pour garder un certain type de consommation, se rabattent sur des produits de moins bonne qualité. Il y a eu une polémique cet été entre l'INSEE et la SNCF sur le fait de savoir est-ce que la SNCF a augmenté ses prix ou est-ce qu'elle a baissé ses prix. Et l'INSEE dit vous avez augmenté vos prix, et la SNCF dit en réalité, en pratique, on a augmenté les Inouïs, mais baissé les Ouigo. Et les gens se sont beaucoup rabattus sur les Ouigo, ce qui fait qu'à la fin des fins, le prix réel payé par le consommateur de son billet de train, comme il a choisi un service qui est un service amoindri, pas forcément de mauvaise qualité, mais un service amoindri, le consommateur aura finalement gagné un peu de pouvoir d'achat sur nous. Et donc, je crois qu'un des enjeux pour les entreprises, c'est de s'adapter au fait qu'elles ne pourront pas augmenter les prix. Elles seront coincées par la concurrence, et donc, soit d'aller vers une qualité exceptionnelle qui fasse que, de toute façon, ils gardent leur marché, leur part de marché, soit au contraire, à l'inverse, baisser la qualité pour dire aux gens, bon, je baisse mes coûts, je baisse la qualité, mais au moins, je maintiens mes marges.
Véronique Rich-Flores, sur cette attitude des entreprises, qu'est-ce que vous dites ?
Eh bien, la plupart des entreprises n'ont pas le choix de toute façon, hein, donc il faut qu'elles arrivent à passer une partie de la hausse de leurs coûts dans leurs prix. Et après, tout va dépendre effectivement de l'exposition à la concurrence, hein, qui s'est quand même largement étendue, y compris à des domaines qu'on considérait comme protégés il y a peut-être une vingtaine d'années. Je pense notamment à tout ce qui concerne les activités de service qui en général sont locales, mais qui, on le sait aujourd'hui, sont beaucoup plus exposées aussi à la concurrence internationale. Donc ça nous dit effectivement que les marges des entreprises vont être sous pression incontestablement, ce qui n'est pas jamais bon pour les perspectives économiques, encore moins pour les perspectives d'investissement. Et puis il y a un phénomène additionnel, c'est que dans tout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'instabilité et d'imprévisibilité sur ces phénomènes de prix. Et cette imprévisibilité, elle nuit beaucoup à l'investissement futur, forcément, parce que vous ne pouvez pas anticiper ce que va être la rentabilité d'un investissement si, compte tenu de vos coûts, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments nuisibles. Alors, pour l'instant, on les voit pas trop parce que finalement, les marges des entreprises, en particulier dans l'industrie, ont plutôt été préservés pendant la crise. Il y a eu beaucoup d'aides, il y a eu aussi des plans de relance qui ont aidé ponctuellement. Et effectivement, la situation des marges des entreprises n'est pas, pour l'instant, inquiétante, en tout cas dans l'industrie. C'est plus compliqué dans les services. Mais bien évidemment, à horizon de 2-3 trimestres, ça risque d'être beaucoup plus complexe.
Le sujet est évidemment politique, hein, surtout en temps de campagne électorale. C'est le cas en France. Est-ce qu'il faut que l'État intervienne encore plus fermement ? On a eu ce chèque inflation là proposé par Emmanuel Macron. Il y a d'autres dispositifs dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je pense qu'on ne résout pas des problèmes de fond structurels et liés à beaucoup de difficultés par des chèques. Et finalement, on est en train de tomber dans la logique américaine. On a suffisamment critiqué, je crois, les uns et les autres, les chèques Trump et Biden auprès des ménages américains, qui ont un effet ponctuel, comme un pansement, qui colle cependant très peu et qui se détache à la moindre pluie. Donc je pense que qu'on vienne en aide aux ménages les plus nécessiteux et que peut-être on comment on réglemente un peu différemment les prix de l'énergie aussi. Ça pourrait être voir qu'on baisse les taxes. Ça pourrait être une option. Ces réponses ponctuelles par l'envoi de chèques aux ménages ne me convainquent pas, absolument pas.
Jean-Marc Daniel.
Mais ce qui me frappe, c'est par rapport aux campagnes électorales précédentes. Le président sortant n'était pas candidat. Et souvenez-vous,
François Hollande
et celle où Nicolas Sarkozy était le candidat, le président sortant et donc candidat sortant, entre guillemets. L'enjeu, c'était le triple A de la dette publique française. Et donc, le discours était, on va faire des efforts de rigueur. Là, on est totalement perpendiculaire par rapport à ça. C'est-à-dire, on distribue à tel point que les parlementaires commencent à se poser des questions sur le budget qu'ils sont en train de voter. Est-ce qu'il a encore un sens vu les promesses qui sont faites?
L'argent magique que vous détestez au plus haut point, je le sais, Jean-Marc Daniel.
Voilà. Donc, cet argent magique continue à couler à flot. Et on peut espérer qu'à partir du printemps, il y aura une reprise en main de tout ça. D'autant plus que ça pose quand même deux questions. La première, c'est qu'on en revient à la situation qui est celle des États-Unis. C'est-à-dire que cette distribution de pouvoir d'achat se traduit par un déficit extérieur qui, en France, là aussi, commence à devenir problématique, même s'il est absorbé par le fonctionnement de la zone euro, et donc il est moins visible qu'à une certaine période de notre histoire. Mais on est dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle de 82-83, qui avait imposé au gouvernement socialiste la politique de rigueur. Et le deuxième enjeu, je pense, derrière tout ça, c'est que la vérité des prix est en train de disparaître. On le voit bien sur l'histoire climatique. Subventionner l'énergie en ce moment, c'est d'une certaine façon subventionner la production de charbon. Et donc, il y a une sorte de démagogie compréhensible, mais qui, à long terme, est nuisible.
Merci. Merci à vous deux, Véronique Riche-Flores, Jean-Marc Daniel. Je vous garde encore quelques instants pour parler de votre livre « Histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs ». Vous faites une séparation entre les oisifs et les productifs. Vous dites c'est même un affrontement ?
Oui, absolument, oui. Ce qui m'a frappé quand on regarde l'histoire de l'économie mondiale, c'est que on parle beaucoup de lutte des classes depuis le 19e siècle et depuis les travaux de Karl Marx. Or, pour moi, quand on regarde l'histoire de l'économie mondiale, c'est un affrontement entre ce que Voltaire appelait le froc et la charrue. La charrue, c'est les productifs, c'est les gens qui travaillent, c'est les paysans, par définition. Et le froc, ce sont toutes les structures qui sont des structures bureaucratiques, des structures qui sont improductives et qui cherchent, d'une façon ou d'une autre, à récupérer une partie de la richesse créée par la charrue, pour vivre aux dépens de cette charrue. Et donc, les luttes et les violences qu'on a pu connaître dans le développement de l'économie ont souvent été des luttes antifiscales, hein, contre les impôts imposés par le froc, par les technostructures, par les bureaucraties. Et je dis, le pays qui en fait a réussi à s'en sortir le mieux au 19e siècle, qui était le Royaume-Uni, c'est quand il a développé effectivement l'idée qu'il fallait un État minimal. Je parle beaucoup de Gladstone, qui était le premier ministre libéral anglais du 19e siècle, et dans la présentation qu'il avait faite du budget anglais en 1852, il avait développé une théorie de l'État minimal où il disait la meilleure chose que puisse faire l'État pour la population, c'est d'oublier la population.
Du chasseur-cueilleur au cyber-travailleur, qu'est-ce qui a changé finalement?
Alors ce qui a changé finalement, c'est que nous sommes dans une période où effectivement les États sont plus présent qu'on ne le croit, qu'on ne le dit, et que les luttes fiscales sont en train de réapparaître. C'est-à-dire que les conflits sociaux des années 60 dans les pays développés étaient beaucoup des affrontements au sein des entreprises pour la répartition de la valeur ajoutée. Et là, on a véritablement des révoltes fiscales qui sont de la même nature un peu que celles du 18e ou du 17e siècle.
À la lumière de cette histoire mondiale de l'économie, est-ce que de nouveaux modèles aujourd'hui, et avec la crise que nous vivons, est-ce que de nouveaux modèles peuvent émerger ?
Oui, j'espère que des nouveaux modèles qui seront centrés sur à la fois la concurrence, sur l'initiative, sur, on a parlé de Schumpeter, sur ce personnage clé qui est l'entrepreneur, vont pouvoir émerger, ne serait-ce que parce que les États sont allés très loin et que face à ces révoltes fiscales qui sont en train de réapparaître, ils vont être obligés de faire preuve d'un peu plus de modestie. Du moins, je l'espère.
Véronique Riche-Flores, vous avez lu ou parcouru le livre de Jean-Marc Daniel. Est-ce que de nouveaux modèles peuvent émerger à la lumière de cette crise ?
Jean-Marc Daniel a fait référence à un retour au XVIIIe siècle. Et moi, je crois que c'est effectivement ce qui nous menace le plus et qui finalement s'explique assez bien quand on a une lecture un peu approfondie des tendances démographiques et de leurs effets respectifs sur notre capacité à développer l'offre productive et donc à satisfaire un maximum de population. Et le schéma inverse est celui de la raréfaction et des difficultés à satisfaire le bien-être d'un maximum et d'un nombre croissant de population. Je crois qu'on est à cette charnière et que c'est pas évident et que du coup, je suis pas sûre qu'on réinvente un nouveau modèle. Ma grande crainte, c'est qu'on revienne bougrement en arrière par rapport aux progrès qui ont été effectués depuis le début du 19e siècle.
Histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, votre livre Jean-Marc Daniel aux éditions Talendier. Merci d'être passé par nos studios et merci aussi à Véronique Riche-Flores. Bonne journée.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Avant de se quitter, notre conseil d'écoute. Ce lundi, alors que continue la COP26, vous découvrirez le grand reportage de Pauline Glaise au sujet des voitures électriques. Est-ce vraiment le véhicule de demain pour limiter le réchauffement climatique? Comment tenir cette promesse? Recycler les batteries, mais pas seulement.
La plupart des trajets, peut-être les trois quarts des trajets, font moins de 50 km, ce qui nécessite des toutes petites batteries finalement. Et donc, ce serait intéressant de trouver des solutions complémentaires à la batterie pour faire ces longs trajets.
C'est quoi la solution?
Alors là, il y a un certain nombre de solutions, plus ou moins exotiques. La première, c'est l'hybridation entre la batterie qui va faire les petits trajets et puis un moteur thermique pour faire les longs trajets. Donc ça continue à émettre du CO2, mais peut-être sur seulement 25% des kilomètres que fait la voiture. Il y a des solutions d'emporter une remorque avec une grosse batterie ou une autre source d'électricité le jour où je vais aller en vacances. Et puis il y a une solution qui me paraît particulièrement intéressante, c'est celle de la route électrique, c'est-à-dire qu'on apporte l'électricité le long des routes principales et des autoroutes pour que la voiture sur sa batterie n'ait qu'à rejoindre ce réseau-là. Et donc, il y a trois technologies essentiellement de transfert d'énergie entre la route et la voiture, soit l'induction, soit les caténaires, comme le train, soit des rails au sol, comme ce qu'on a pour le tram de Bordeaux, par exemple.
Pourquoi pas la route électrique, des pistes pour la mobilité de demain. Grand reportage de Pauline Glaise du service économie de RFI. Dès lundi, sur notre site et sur nos supports numériques. Un coup d'œil à présent sur notre programme de la semaine prochaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Ce sera un grand invité de l'économie avec Jeune Afrique et Julien Clémenceau avec qui j'interrogerai Hassanen Iridji. C'est le patron d'Action, un groupe implanté dans de nombreux pays en Afrique, dans plusieurs secteurs comme l'énergie, les télécoms, les services financiers, l'immobilier. Les sujets ne manquent pas pour lui, pour cet homme d'affaires malgache. C'est la deuxième fortune de son pays. L'Afrique, plus précisément la Centrafrique, on y était toute cette semaine avec une série de reportages édifiants réalisés par Carole Valade à Bangassou, dans le sud-est du pays. Les commerçants sont les premières victimes de l'insécurité. Conséquence, l'inexorable flambée des prix, on y revient, la flambée des prix sur les marchés.
Il y a des sucres, il y a des farines, il y a des piles, il y a des biscuits, il y a des huiles. Donc moi je fais tout, tout ce que moi je vois, moi je fais.
Tout, mais trop cher, se plaignent les clients d'Aubin Bambakwa. Principale cause, selon le commerçant, l'insécurité.
2013 là, on m'a volé 5 millions et puis on a vidé tout mon magasin. Quoi. Et puis 2017, c'est la même. 2021, c'est la même. On a tout pillé. Je dis qu'on a tout pillé. Bon, en janvier, j'ai perdu presque 12 millions comme ça. Quoi. 12 millions.
Autre facteur, la dégradation des pistes, comme en témoigne l'état déplorable de certaines marchandises. Le pack d'eau minérale, maintenu par du ruban adhésif, se revend trois fois plus cher que dans la capitale.
Les farines, maintenant, à Bangui, c'est à 28 ou 30 000 comme ça, les 50 kilos.
Et donc, le transport, ça coûte combien?
Mais presque 10 000 francs, par les sacs. Ouais.
Ça veut dire qu'il faut revendre le sac ici?
À 45 000. Donc, on trouve seulement les 5 000 francs dessus.
Et ça, c'est pas beaucoup.
Ben c'est ça.
Extrait d'un reportage de Carole Valla d'une série Afrique Économie à retrouver sur notre site RFI.fr. Vous ne manquez pas non plus le portrait de Tidjane Thiam, le banquier franco-ivoirien représentant de l'Union africaine dans la lutte contre le Covid. Il sera prochainement notre invité dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Merci de nous avoir accompagnés cette semaine encore avec Guillaume Munier, précieux réalisateur. Merci encore à nos invités. Vous n'oubliez pas RFI Écho sur Facebook et sur Twitter. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs vous a été présenté par Orange Money au service de l'inclusion financière des populations en Afrique.
RFI Challenge APAFRI.